Salut à tous, c'est Chris sur Mythologie Astrale. Si vous m'avez trouvé, c'est que vous êtes plutôt futé. Et aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode du podcast pour continuer la grande, grande série. C'est une des séries les plus anciennes, en fait, du podcast que j'ai continué à faire le plus longtemps. C'est la série sur les féminités exilées. Et en fait, personne ne m'a jamais demandé pourquoi j'avais fait cette série. J'ai expliqué, évidemment, dans les épisodes de la série, pourquoi je fais cette série, mais vous ne m'avez pas demandé vraiment pourquoi tu fais cette série. Et en fait, je fais cette série parce que... Oh my God, j'espère que c'est encore bon. Oh, Jesus. Il fait tellement chaud ici que tout tourne tellement vite. Même les fruits, choqué. Anyways. Donc, personne ne m'a demandé tout pourquoi j'ai fait une série sur les féminités exilées parce que c'est hyper important, je trouve, d'explorer toutes les facettes, en fait, du féminin, y compris le féminin qui est rejeté, en fait. Et j'étudiais certains mythes. Et je me suis rendu compte que le point commun entre tous ces mythes, c'était que c'était vraiment des féminités qui ont été bannies, exilées, qui ont été manipulées, qui ont été kidnappées ou qui ont été... Mais il y a toujours cette notion, je trouve, d'exil. Donc, on est dans cette espèce d'univers parfait et bien ordonné. Et subitement, l'innocence est arrachée et la personne, souvent une femme, ou en tout cas une femme ou un homme de polarité féminine, se retrouve expulsée de ce jardin d'Éden. Évidemment, l'histoire originelle, alors une des histoires originelles, puisqu'il y a plein d'histoires originelles, c'est très centré autour de cette espèce de paradis perdu hein, qu'on retrouve dans plein de religions et dans plein de spiritualités différentes. C'est pas juste dans la mythologie gréco-romaine ou dans la mythologie chrétienne. Mais voilà, c'est cette idée de paradis perdu, cette idée de bonheur et d'harmonie et de paix qu'on possédait en fait jusqu'à présent et qu'on ne possède plus parce que soit on a commis une erreur qui est irréparable, soit parce que justement, bon ça c'est vraiment les Grecs et les Romains, parce que c'était le destin en fait, on était censé souffrir autant et être banni, etc. Voilà. Et en fait ça m'a tellement touché que je me suis dit, mais je vais raconter en fait le destin de ces femmes, ou de ces entités, hein, quand c'est pas des femmes, des fois c'est des déesses, etc. Mais je vais raconter en fait le destin de ces femmes. Et donc on a parlé de plein de profils dans cette série, on a parlé de Lilith notamment, Lilith qui est considérée comme la première femme, la première création féminine de Dieu, mais qui a désobéi, qui était l'égale d'ailleurs de l'homme et qui avait refusé de se soumettre à la volonté de l'homme. Et en correction de ça, Dieu a décidé de créer la femme, non pas cette fois-ci de manière indépendante et libre, entre guillemets, mais en la faisant naître, en tout cas dans la tradition judéo-chrétienne, de la côte de l'homme. Plutôt que de la faire à part, puisque à part, elle était tellement intelligente et tellement puissante surtout, et consciente, à mon avis, de sa puissance, qu'elle a dit non, je ne vais pas me soumettre à ce boug, en fait. Voilà. Alors que, quand on sait que tout est fait et tout est dit de manière symbolique, en fait, dans le monde de Dieu, à mon avis, l'idée, ce n'était pas juste de se soumettre à Adam, c'est par le biais de la soumission, je ne sais pas moi, au mari, ou en tout cas à la figure de l'homme, se soumettre à la figure du Père, ou en tout cas à la figure de Dieu. C'est toujours des trucs très démonstratifs, symboliques, etc. C'est jamais... en fait, ce qui nous demande, c'est jamais quelque chose de si important que ça. J'ai l'impression que c'est souvent plus la posture dans laquelle on va se mettre et la personne qu'on va devenir en faisant ça qui est le plus important. Anyways, parenthèse refermée. Et donc, aujourd'hui, on continue cette grande série sur les féminités exilées et on parle un petit peu d'autres féminités. Donc, aujourd'hui, on va parler... de Pandore. Et voilà, on va parler de Pandore parce que déjà Pandore, c'est une de mes figures féminines préférées dans toutes les mythologies par rapport à ce qu'elle signifie et surtout par rapport à l'originalité en fait de son mythe à l'époque, tout ce truc où en fait on a le monde des dieux qui se ligue en fait contre le monde des hommes et qui veut quelque part être sûr que les hommes payent, en fait, quelque part pour leur perfidie, pour leur hubris, etc. Et donc, ils commencent à crafter, manigancer tout un stratagème pour piéger, en fait, l'humanité. Juste en preview, dans cette série, on va aussi parler d'Aphrodite Pandémos. Donc, c'est une facette d'Aphrodite qui n'est pas très connue, mais moi, qui me plaît beaucoup et qui m'intéresse beaucoup parce que c'est vraiment l'Aphrodite vulgaire, quoi. C'est vraiment... C'est pas du tout l'Aphrodite Urania qui est céleste. Je vous l'ai déjà dit, hein, d'ailleurs, dans les différentes séries qu'on a faites, il y a vraiment une Vénus céleste et une Vénus terrestre. Une qui est évidemment beaucoup plus articulée avec l'archétype de la balance et l'autre qui est articulée avec l'archétype du taureau. Donc on va parler d'Aphrodite Pandémos. On va parler aussi d'Arachné, évidemment. On est obligé de parler d'Arachné quand on parle des féminités exilées, surtout quand on sait ce que Athéna lui a fait. Et voilà, donc Pandore, Arachné et Aphrodite Pandémos, c'est vraiment les trois prochains épisodes qu'on va aborder. Et donc Pandore. Pandore, c'est une figure emblématique de la mythologie grecque qui incarne un récit qui est riche en symboles et aussi en avertissements. Donc selon la légende, on a Zeus, le roi des dieux, Zeus Jupiter, qui ordonne à Héphaïstos Vulcain de créer la première femme, Pandore, comme une punition pour les hommes. Donc la naissance de Pandore, elle est accompagnée évidemment de dons divins, la beauté, la grâce, l'intelligence, la ruse, etc. Mais chaque dieu olympien contribue en fait à son existence en lui accordant des caractéristiques spécifiques. Héphaïstos va lui offrir la forme, Athéna la raison, Apollon la musique, et ainsi de suite. Et donc chacun contribue à faire de Pandore une créature qui était juste exceptionnelle et vraiment dotée par les dieux, quoi. Et en fait, Pandore, le problème, c'est qu'elle portait également en elle et avec elle une boîte mystérieuse, qui est souvent décrite d'ailleurs comme une jarre avec les versions anciennes du mythe. Et en fait, elle a été avertie à sa naissance de ne jamais ouvrir cette jarre. Et curieuse et tentée, évidemment, elle va céder à la tentation et elle va ouvrir cette jarre. Et ainsi, elle va libérer une multitude de maux, de malédictions et de terribles... de terribles malheurs, en fait, sur le monde et sur l'humanité. La maladie, la douleur, la misère, la tromperie, la perfidie, le viol, enfin voilà, tout. En fait... Pandore, dans cette version proto-chrétienne, proto-christique, en fait, du monde, Pandore détient dans cette jarre tout le péché du monde, en fait. C'est incroyable, hein. Enfin, je trouve ça incroyable. En fait, dans cette jarre, elle détient tout le péché du monde, et si elle garde la jarre fermée et qu'elle reste la gardienne, en fait, du péché du monde, tout va bien. Mais si elle ouvre cette jarre, le péché du monde va déborder en fait de la jarre et se répandre dans toute sa saleté sur le monde. Et je trouve ça fascinant en fait comme mythe, parce que ça nous dit énormément de choses et ça nous révèle aussi énormément de choses sur la perception de la femme à l'époque, sur la perception du péché, sur la perception de la faute. Et la femme en fait quelque part comme mère, maîtresse de toutes les fautes, quoi. Mais en fait, ce que je trouve beau avec ce mythe, c'est qu'on pourrait penser justement à la première lecture qu'en fait, ouais... Du coup, on a cette vision qui est hyper sexiste de la femme, etc. Mais non, encore une fois, on a confié la jarre à Pandore. C'est juste qu'elle a été trop faible et elle a cédé à la tentation. Mais on lui a confié la jarre. Et en fait, c'est ça qu'on oublie dans le mythe créateur judéo-chrétien, dans les mythes créateurs judéo-chrétiens. C'est qu'en fait, on a confié le jardin d'Éden et en fait toute la création à l'homme et à la femme. Hein. Leur but, c'était de surveiller le jardin d'Éden. Et c'est en ça d'ailleurs que la trahison elle est forte, c'est qu'en fait leur but c'était de surveiller le jardin et ils ont utilisé cette posture de surveillance du jardin pour pouvoir voler le fruit qui est défendu et le manger et se le partager entre eux. Et en fait ça c'est un truc que je trouve fascinant parce que je trouve que Pandore reflète vraiment aussi cette énergie là de l'Éden, de la faute originelle, voilà, on n'a pas voulu faire de mal mais finalement on a fait beaucoup de mal. Une faute anodine, et là on est vachement dans l'archétype du Verseau, surtout avec Pluton en Verseau, comment une faute de jugement, une erreur éthique, un manque d'intégrité a des répercussions terribles sur le reste de l'humanité en fait. Surtout quand on sait que, surtout pour les personnes qui ont réussi à suivre le webinaire gratuit que j'avais fait sur Pluton en Verseau, quand on sait que lors du dernier transit de Pluton Verseau, on était au moment de grandes révolutions dans le monde, la révolution américaine, la révolution française, la révolution haïtienne, et que les décisions qui ont été prises à l'époque par les pères fondateurs des États-Unis, les décisions qui ont été prises à l'époque par les pères de la révolution française et de la chute de l'Ancien Régime et de l'avènement de la République, et les décisions qui ont été prises à l'époque par les pères de la révolution haïtienne ont encore des répercussions aujourd'hui sur les uns et les autres qui sont dépositaires en fait de cette histoire, de ce pays, etc. quoi. Donc voilà, pour vous dire comment en fait les choix éthiques, c'est comme si Dieu ou l'univers nous proposait voilà, là c'est l'heure de la liberté, voici la liberté, et en fait on nous la donne, et en fait la première question qu'on nous pose c'est qu'est-ce que tu vas faire de cette liberté, et en fait est-ce qu'on va l'utiliser pour faire n'importe quoi ou est-ce qu'on va l'utiliser pour faire des choses qui vont nous élever. Et en soi, je suis obligé de faire le parallèle avec Internet. Internet est une boîte de Pandore. À son humble échelle, mais Internet est une boîte de Pandore. Et je suis désolé, mais je suis obligé de faire une parenthèse sur les fourmis, parce que je vois encore des fourmis. Et comme je vous le disais dans le webinaire, il y a une super nana qui écoute le podcast qui m'a dit « Mais Chris, en fait, les fourmis sont le symbole du travail d'équipe et du travail acharné. » Et je me suis dit « Waouh !» Et en fait, je fais que voir des fourmis partout. Fourmis de différentes classes, de différentes races, de différentes couleurs, de différentes tailles. Et non, mais j'habite pas dans un 3A, hein, mais bon, c'est l'été. Et en fait, comme dans les maisons de vacances, ben, la nature reprend ses droits. Hein, y a des petites fourmis, des petites araignées, c'est la vie, c'est pas... Bref, parenthèse refermée. Mais bon, tout ça pour dire que Internet, c'est vraiment la boîte de Pandore, en fait. Hein. On a cette formidable capacité de partager entre nous notre intelligence et de gagner en puissance. Et en fait, les Américains, ils ont compris, ils ont fusionné leur communauté scientifique avec la communauté militaire et avec la communauté économique. Et ils ont réussi à faire des putains d'innovations qui nous ont complètement colonisés comme des je ne sais quoi. Et je dis pas que c'est les seuls qui ont fait ça, mais en tout cas, à cette échelle et avec cet impact, c'est vraiment les Américains. Il y a des super documentaires sur le sujet, sur Arte, c'est incroyable. Notamment un documentaire sur les ultra-riches. Franchement, God bless Arte. Si c'est pas Arte, je sais pas comment j'aurais fait dans cette vie sans argent, sans livres, sans... quand j'étais petit en tout cas, pour m'éduquer, si c'était pas de la télévision de qualité comme Arte, quoi. Et ouais, et en fait, ils ont un super documentaire sur les ultra-riches et on vous explique la naissance d'Internet et la naissance de toute la communauté autour d'Internet et des innovations techniques et scientifiques. Et clairement, on est obligé de tirer le chapeau, quoi. Donc voilà, je pense que vraiment, il y a plein de symboliques de Pandore aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit, que ce soit Internet, que ce soit... Ah oui, je me souviens de ce que je vous ai dit sur Internet. Oui, donc on a cette formidable capacité de concentrer les pouvoirs, de concentrer notre intelligence, d'apprendre gratuitement, etc. Et en fait, les gens... Ben, qu'est-ce qu'ils font sur Internet ? Ben, ils consomment du porno, quoi. Je crois que le porno ou les contenus à caractère pornographique sur Internet représentent genre un tiers de tout le trafic. C'est-à-dire que tous ces câbles marins-là, tous les câbles marins que vous voyez sous la mer et tout, des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres de câbles, il y a au moins un bon tiers de ces câbles qui est rempli de porno. Donc en fait, ça vous dit aussi, à partir du ratio en fait, sur Internet, quelle est la priorité de la race humaine en tant que collectif. En fait, ça fait rire les gens. Mais les décisions qu'on prend individuellement ont des conséquences sur le collectif. Et moi, je trouve que ça, là, par exemple, ça a créé une espèce de pornographisation de la société. Et la pornographisation de la société, c'est pas juste montrer des fesses, montrer des pecs. Voilà, c'est plus rien n'a de mystère. Hein, c'est quoi, au final, le porno ? Le porno, c'est l'absence de... Pour moi, c'est pas l'absence de storytelling, mais en tout cas, c'est l'absence de distance entre l'œil et ce qui se passe. Votre œil est collé sur la fesse gauche de cette nana qui est en train de se prendre ce qu'elle est en train de se prendre. Et c'est ça, le porno, en fait. Et en fait, si vous êtes attentif et que vous regardez les modèles d'exploitation des réseaux sociaux, des GAFAM, que ce soit Google, Amazon, Microsoft ou les autres, là, Netflix surtout, ben en fait, la logique, elle est très pornographique. Vous allez sur Netflix avant même que vous décidiez de cliquer sur une vidéo ou pas, vous avez déjà un trailer qui vous raconte toute l'histoire de A à Z. On vous met une photo, si vous êtes une personne noire, on va vous mettre les photos des personnages noirs dans la série. Si vous êtes une personne gay, on va vous montrer que les personnages secondaires LGBT dans la série. Enfin, on est complètement dans une pornographisation de la société et je suis hyper fier parce que dans le groupe de lecture, dans le club de lecture, le club Astral sur Patreon, on a lu ensemble... On a lu ensemble un chercheur que j'aime beaucoup. On a beaucoup parlé de lui parce que c'est un gars que j'aime beaucoup. Qui s'appelle Byung-Chul Han. C'est un chercheur coréen qui s'est installé en Allemagne et tout pour continuer à faire ses recherches et tout. Et donc, évidemment, les Allemands, le task de pessimiste et de... Qu'est-ce qu'ils ont dit encore ? Qu'il était pessimiste et sceptique. Moi, j'adore sa vision de la société. Et je trouve pas qu'il soit pessimiste ni sceptique, c'est juste un romantique. Et en fait, en tant que romantique dans un monde qui est en train de sombrer, bah, c'est normal de penser comme ça. Et c'est normal d'écrire comme ça parce que vraiment, le monde va vers sa perdition, quoi. Je suis désolé, ça fait vraiment très grand-mère rebeu, grand-mère renois, un peu millénariste, fin du monde et tout. Mais je vous jure, vraiment, la société va vers sa destruction. Et c'est marrant parce que... Enfin... Je suis obligé de rendre grâce parce que en fait on dit ça et en même temps si on regarde les chiffres mais vraiment froidement hein, et les faits, on n'a jamais été aussi longtemps dans une période de prospérité et de paix qui a duré aussi longtemps en fait. Justement, ce qui est bizarre dans le monde dans lequel on vit, c'est la paix. Donc c'est chelou hein, de se dire que les gens souffrent autant Alors qu'on est dans une période de paix, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on aura la paix quand les êtres humains vont rentrer en période de guerre. Enfin, c'est un peu. En tout cas, lisez Byung Chul Han, relisez le mythe de Pandore, parce que je trouve que c'est un mythe qui est gorgé de sagesse, vraiment. Voilà, donc explorez l'épopée de Pandore et vraiment concentrez-vous sur le fait que Pandore, c'est un instrument involontaire de la curiosité humaine et des forces divines. Et dans ce rôle d'instrument involontaire, désolé, j'ai pas vu ton message avant. Qu'est-ce qu'elle raconte? C'est ok pour moi? Ok. Ok. C'est un instrument en fait qui, pour moi, est catalyseur de progrès. Pandore. C'est au moment où on ouvre la boîte de Pandore et que tous ces trucs-là sortent que la vraie aventure en fait elle commence. Puisque avant on est dans cette espèce d'état de paix et de béatitude. Donc je suis pas en train de vous dire qu'il faut aller pêcher, manger et croquer le fruit défendu en permanence, mais c'était écrit, voilà, ça devait se passer comme ça. Et je pense que toutes les épreuves qui sont arrivées derrière étaient là aussi pour façonner l'humanité en ce qu'elle est aujourd'hui. Et pour la rendre aussi un peu plus consciente d'elle-même. Voilà, c'est marrant, hein, parce que c'est vraiment juste un épisode sur les féminités exilées, mais comme quoi ça prouve à quel point les femmes sont une belle métaphore du monde, en fait. Les femmes sont des belles métaphores de la société, les femmes sont de belles métaphores de l'humanité elle-même. Et ça, c'est un truc qu'on a tendance à oublier. On dit tout le temps, voilà, la déclaration des droits de l'homme, les hommes, les hommes, les hommes, les hommes, l'humanité, Adam, Adam, Adam. Mais en ça, je trouve que Pandore, même si, bon, on lui donne un mauvais rôle, mais j'ai envie de dire Adam aussi, on lui donne un mauvais rôle. En ça, je trouve que Pandore, elle est vraiment ouais, une espèce de mère de l'humanité, une espèce d'avatar qui représente au même titre qu'Adam toute l'humanité, en fait. Voilà. Et ne jamais oublier que même si, du coup. Le stratagème des dieux derrière Pandore était vraiment diabolique. Et c'est en ça que pour moi, les dieux grecs et romains, c'était juste des démons en blouse blanche. vraiment. Des démons en blouse blanche. Et voilà. Et en ça, en ça, je trouve que voilà, le plan de base, il était mauvais. Mais il faut garder à l'esprit que de base, on lui a confié toutes ces choses-là. Elle était la gardienne et la dépositrice de ça, même si ses épaules étaient frêles. Donc voilà un petit peu pour Pandore. Si l'exploration du Dark Side dans votre thème vous intéresse, n'hésitez pas à commander le Perséphone ou le Médusa. Et je suis hyper content et fier de vous annoncer que la plupart des prestations qu'on propose sur Mythologie Astrale, donc tout va pas arriver en même temps, ça va arriver au compte-goutte parce que c'est compliqué. Voilà, je vous épargne les détails de compta, de voilà. C'est compliqué, mais au fur et à mesure, on est en train de rendre disponibles les prestas de Mythologie Astrale directement sur le site internet mythologieastrale.com. Vous aurez juste à aller sur le site et vous pourrez cliquer et accéder directement à la commande, ce qui va nous envoyer un bulletin chez nous, là, sur l'adresse mail. Et grâce à ce bulletin, nous, on saura quoi faire et en combien de temps vous livrez, etc. Ce sera beaucoup plus simple pour tout le monde. Donc ça, je suis hyper content de pouvoir l'annoncer. N'hésitez vraiment pas à visiter mythologieastrale.com. C'est là-bas que tout le fruit de mon vrai travail va. Donc je ne dis pas que sur le podcast, ce n'est pas mon vrai travail. Mais voilà, le podcast, c'est un véritable plaisir pour moi de partager mes connaissances. Là, voilà, les produits que je mets en vente, c'est vraiment le fruit de mes recherches sur plusieurs années. Je suis un ancien élève en sciences de la religion. J'étudie aussi les industries culturelles. Donc c'est toujours bien de créer des ponts entre les deux et d'utiliser l'astrologie pour pouvoir agrandir en fait les connaissances de chacun, alors des connaissances sur soi-même, mais aussi des connaissances sur les autres, quoi. Donc sur ce, je vous embrasse et je vous dis au prochain épisode où on va parler un petit peu de la mythologie astrale d'Arachné. Et je sais que c'est un personnage que vous aimez bien parce qu'elle se disait plus intelligente qu'Athéna. Donc j'ai hâte d'aborder ça avec vous et aussi de parler de sa tragédie puisqu'elle finit très mal.